Préface. Italie, mars 1878. Un profond sentiment de tristesse m'a saisi en étudiant le Capital à la pensée que ce livre était et resterait qui sait combien de temps encore complètement inconnu en Italie. Mais s'il en est ainsi, me suis-je dit ensuite, cela veut dire que mon devoir est justement de m'employer de toutes mes forces à ce qu'il n'en soit plus ainsi. Et que faire? Une traduction? Ah mais non! Cela ne servirait à rien. Ceux qui sont en état de comprendre l'œuvre de Marx telle qu'il l'a écrite connaissent certainement le français et peuvent recourir à la belle traduction de J. Roy, entièrement revue par l'auteur qu'il a déclaré digne d'être consultée, même de ceux qui connaissent la langue allemande. C'est pour une toute autre sorte de gens que je dois travailler. Ils se divisent en trois catégories. La première se compose de travailleurs ayant de l'intelligence et un certain degré d'instruction. La seconde, de jeunes gens sortis de la bourgeoisie, qui ont épousé la cause du travail, mais qui ne possèdent néanmoins ni bagage d'études, ni un développement intellectuel suffisant pour comprendre le Capital dans son texte original. La troisième, enfin, de cette jeunesse des écoles, au cœur vierge encore, qui peut se comparer à une belle pépinière de plants encore tendres, mais qui donneront les meilleurs fruits s'ils sont transplantés en terrain propice. Mon travail doit donc être un abrégé facile et court du livre de Marx. Ce livre représente la vérité nouvelle qui démolit, met en pièces et disperse au vent tout un séculaire édifice d'erreurs et de mensonges. Il est toute une guerre glorieuse en raison de la puissance de l'ennemi et de la puissance plus grande encore du capitaine qui l'a entreprise, avec une si grande quantité d'armes toutes neuves, d'instruments et de machines de toutes sortes, que son génie a su extraire de toutes les sciences modernes. De beaucoup plus restreinte et modeste est ma tâche. Je dois seulement guider une troupe d'adeptes empressés par le chemin le plus facile et le plus sûr, au temple du Capital, et là démolir ce dieu pour que tous puissent voir de leurs yeux et toucher de leurs mains les éléments dont il se compose, et arracher les vêtements de ses prêtres, afin que tous puissent voir les taches de sang humain qui les souillent, et les armes cruelles avec lesquelles ils immolent chaque jour un nombre sans cesse croissant de victimes. C'est avec ce dessein que je me mets à l'œuvre. Puisse cependant Marx remplir sa promesse en nous donnant le second volume du Capital, qui traitera de la circulation du Capital, livre 2, et des formes diverses qu'il revêt dans le cours de son développement, livre 3, ainsi que le troisième et dernier volume, qui exposera, livre 4, l'histoire de la théorie. Ce premier livre du Capital, écrit originairement en allemand et traduit ensuite en russe et en français, est maintenant brièvement résumé en italien dans l'intérêt de la cause du travail. Que les travailleurs le lisent et le méditent attentivement, car il ne contient pas seulement l'histoire du développement de la production capitaliste, mais aussi le martyrologe du travailleur. Et en finissant, je ferai aussi appel à une classe qui est autrement intéressée dans le fait de l'accumulation capitaliste, à la classe des petits propriétaires. Comment se fait-il que cette classe, naguère si nombreuse en Italie, aille aujourd'hui en diminuant toujours davantage? La raison en est très simple. C'est que, à partir de 1860, l'Italie s'est mise à parcourir d'une allure accélérée le chemin que doivent nécessairement parcourir toutes les nations modernes, le chemin qui mène à l'accumulation capitaliste, laquelle a atteint en Angleterre cette forme classique qu'elle tend à atteindre en Italie, comme dans tous les autres pays modernes. Que les petits propriétaires méditent sur l'histoire d'Angleterre, rapportée dans ce livre, qu'il médite sur l'accumulation capitaliste accrue en Italie par les usurpations des grands propriétaires et par la liquidation des biens ecclésiastiques et des biens domaniaux, qu'il secoue la torpeur qui pèse sur leur esprit et sur leur cœur, et se persuade une bonne fois que leur cause est la cause des travailleurs, car ils seront tous inévitablement réduits par l'accumulation capitaliste moderne à cette triste alternative, ou se vendre au gouvernement pour avoir du pain, ou disparaître à toujours dans les rangs épais du prolétariat.